Ben, pour moi, nous sommes ivoiriennes avec son œil. Mais nous espérons que ici, mardi, ça va aller un peu mieux. Hein? Donc, merci de penser à Jocelyne. Et elle regrette qu'elle n'est pas là ce matin, mais c'est vrai, donc, de rester avec la tête en bas, elle ne peut même pas lire le Seigneur avec vous. Hein? Alors, c'est difficile. Alors, aujourd'hui, comme Jocelyne a mentionné, c'est la fête des mères. Et ce serait approprié de regarder ensemble l'histoire d'une femme remarquable, l'histoire d'une maman formidable. Moi aussi, j'avais une mère formidable. Et je l'aimais beaucoup. Maintenant, elle est auprès du Seigneur, bien entendu. Et Jésus, il aimait sa mère, hein? Et il est intéressant de se rappeler que même quand Jésus était sur la croix du Calvaire, il pensait à sa maman. Hein? Et avant de rendre l'âme, il lui a témoigné l'affection qu'il avait dans son cœur pour elle. L'apôtre Jean lui fait un beau tableau et de cette affection dans son évangile chapitre 19. Nous lisons dans le verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez elle. C'est beau, hein? C'est magnifique. Bon, regardons notre histoire, hein? On la trouve dans le deuxième livre des rois, et le chapitre 4. Et si vous voulez regarder avec moi, cette eau, Jocelyne, cette eau est bonne. C'est pas la de la semaine passée, non? Non? C'est d'aujourd'hui. Ok. Bon. D'accord. Alors, deux rois, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle a dû être une très bonne cuisinière. Hein? Puis le verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Verset 10, « Faisons une petite chambre, une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Malheureusement, on ne connaît pas le nom de cette femme. Hein? On l'appelle tout simplement la Sunamite. Mais c'est une femme qui est pleine de qualités, une femme remarquable. Tout d'abord, elle savait comment exercer l'hospitalité. Hein? Chez elle, on trouvait toujours une place à table. Hein? C'est vrai. Bien sûr, cela fait plaisir de recevoir des amis à la maison. Et bon, si vous voulez venir chez nous, vous êtes le bienvenu, mais il faut venir une à la fois, hein? Deux maximum. Bon. Et il y a plusieurs passages dans la parole concernant l'hospitalité. Par exemple, et dans l'épître aux Romains, chapitre 12 et le verset 13, l'apôtre Paul nous conseille pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, il est écrit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Savez que nous sommes missionnaires des Assemblées de Dieu dans la Grande-Bretagne et nous avons l'occasion de voyager dans plusieurs pays d'Europe et dans le but d'annoncer l'Évangile. Et on est toujours très reconnaissant envers ceux qui nous reçoivent chez eux pour dormir ou même pour manger. Mais il est très peu probable que ses amis ont pensé que nous sommes les anges. Mais bien sûr, on ne sait jamais, hein, c'est vrai. Puis l'apôtre Pierre, il nous donne un bon petit conseil. Il dit, dans son premier épître, chapitre 4, verset 9, il dit, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Hein? » Sans murmure. Cela veut dire que même si les invités mangent un peu trop, et s'ils parlent un peu trop, et s'ils ne savent pas comment partir, on doit rester calme. Alors, dans le village de Sunem, dans le village se trouvait entre la Samarie et le Mont Carmel, et comme il y avait une école de prophètes au Mont Carmel, haute sur le mont, Élisée, le prophète, passait assez souvent par là, par la ville, le village de Sunem. Un jour, il passait à midi et il a été invité par cette femme sunamite, de venir se mettre à table. Et justement, il est écrit, comme on a lu dans le verset 8, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Alors, probablement que cette femme distinguée a vu le prophète traverser le village, fatigué après sa longue marche, épuisé avec la chaleur, et avec beaucoup de gentillesse, elle l'a invité à venir manger et boire. Cela lui fait penser à l'amour de Dieu le Père et manifeste continuellement envers vous et envers moi. C'est-à-dire, son cœur est toujours grand ouvert pour nous recevoir. Et sans cesse, le Seigneur nous invite à entrer dans sa salle de banquet. Et la bannière qu'il déploie sur vous et sur moi, c'est pas le drapeau suisse, non. Et c'est pas le drapeau britannique non plus. La bannière qu'il déploie sur nous, c'est, merci Claude, c'est l'amour. Amen. Et puis dans l'évangile de Matthieu, il y a un verset magnifique. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Amen. Alors ce matin, si vous êtes fatigués, est-ce que vous êtes fatigués? Moi, je suis un peu fatigué. Hein? Alors là, c'est bien de venir devant le Seigneur et il nous donne un peu de repos. Amen. Nous sommes un peuple privilégié d'être dans sa présence. Donc, cette brave femme, cette sunamite, avait le cœur sur la main. Et un jour, elle a parlé avec son mari et ils ont décidé de construire une jolie petite chambre exprès pour le prophète. Bon, il me semble quand même que c'était elle, la patronne, hein? Comme c'est souvent le cas. Hein? Alors, elle dit dans le verset 10, elle dit, « Faisons une petite chambre haute. » Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, un lampe, afin qu'il s'y retire quand il vient chez nous. Et elle a fait cela simplement, sans s'attendre à recevoir aucune récompense. C'est beau, n'est-ce pas? Quand l'hospitalité est offerte sans cérémonie, en toute simplicité, car on a l'assurance qu'un jour on aura une récompense pour une telle attitude. Jésus dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, Jocelyn, quiconque donne un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors cette femme, elle est pleine de bonté, hein? Mais elle a une autre grande qualité. Elle est bien dans sa peau, hein? Elle est bien dans ses baskets, hein? Et elle aime la vie, elle est satisfaite avec ce qu'elle a, elle est contente, c'est une femme contente. Bien sûr, le prophète Élisée est très reconnaissant de son hospitalité, hein? Et il aimerait montrer son appréciation d'une manière pratique, d'une manière tangible. Et alors il pose une question, il dit à la femme, il dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Puis elle répond, vous savez, elle dit, je suis contente, j'ai besoin de rien, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Et là encore, on voit qu'elle ne reçoit pas le prophète dans un but intéressé, hein? Son hospitalité est gratuite, hein? Elle est très contente de recevoir Élisée chez elle. Et cela fait plaisir, n'est-ce pas, de rencontrer les chrétiens qui sont contents, hein? Et qui sont satisfaits de leur sort, qui apprécient la vie et qui apprécient leur Église. Amen. Est-ce que vous êtes content de venir à la chapelle de l'espoir? Oh, vous n'êtes pas tellement sûr. Encore, est-ce que vous êtes content de venir ici dans la chapelle de l'espoir? Amen. Voilà, quel privilège de venir voir nos frères et sœurs et de rencontrer le Seigneur. Amen. Et c'est vrai, la vie est belle. La vie est belle, hein? Chaque bouffée d'oxygène et qu'on respire, c'est un petit cadeau que le Seigneur nous donne, hein? Chaque jour, il nous gâte. Un jour, l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Bon, Paul considérait Timothée un peu comme son fils. Et il dit, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Hein? Vous savez que moi, j'aimerais bien une Mercedes, mais j'ai une Skoda. Hein? Et alors là, je suis content. La Skoda va très bien. Hein? Puis Paul a aussi écrit dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, il a appris, donc c'était tout un apprentissage. Il faut dire que la vie nous apprend beaucoup de choses. Bon, quand Élisée a posé la question, que puis-je faire pour toi? Cette femme, elle aurait pu profiter de l'occasion pour demander une petite récompense justement pour son hospitalité et pour la location de la chambre. Elle aurait pu placer, vous savez, elle aurait pu placer un petit panneau devant sa porte et chambre à louer. Et pour les Anglais, bed and breakfast. Et pour les Allemands, Zimmerfrei, hein. C'est vrai. Mais non. Et là, je me souviens. Et une fois avec Jocelyn, on était en voyage, puis on voyageait depuis Munich jusqu'à Salzbourg. Puis la nuit commençait à tomber, puis on cherchait un endroit pour dormir. Puis juste après la frontière avec l'Autriche, on a vu une belle maison au bord de la, une vieille maison, couverte de fleurs. Puis donc, c'était marqué Zimmerfrei, hein. Alors, donc, on a tapé à la porte, puis on a eu une chambre magnifique, hein? Et puis, on a bien dormi, et le lendemain, on était à table pour le petit déjeuner, et la vieille grand-mère, elle avait peut-être 90 ans, et elle est venue du parc Jocelyn, elle s'est défendue avec l'Allemand, hein? Puis, elle a dit, vous avez bien dormi? Puis, elle a dit, oui, gut schlafen, hein? Puis, elle a dit, donc, et là, je me souviens, pendant la guerre, quand j'étais jeune fille à la maison, une nuit ou un soir, Adolf Hitler et quelques officiers sont venus dormir dans la maison. Puis elle a dit, Adolf Hitler a dormi dans la chambre où vous avez dormi. Oh là là, j'ai dit à Jocelyne, j'espère que ça avait changé le lit, hein? Il change le matelas en tout cas. Hein? Donc, Élisée veut absolument récompenser cette femme pour son hospitalité, pour sa gentillesse. Et il réfléchit pour savoir quoi faire. Hein? Quand soudainement, il se rend compte qu'il n'y a pas d'enfant à la maison. Hein? Il n'y a pas d'enfant. Alors ça y est, Élisée l'appelle, il appelle la tsunami, et il annonce à la femme une bonne nouvelle. Il dit, écoutez, hein, ici une année, tu vas avoir un fils. Hein? Puis bien sûr, on peut imaginer que c'était le désir le plus intime de son cœur. Mais avec les années, elle a perdu l'espoir. Elle a perdu tout espoir. Il n'y avait pas d'enfant. Et elle répond à Élisée, ne me donne pas de faux espoirs. Hein? Ne me donne pas de faux espoirs. Cependant, cette prophétie se réalise. En effet, elle est tombée enceinte. Et l'année suivante, un beau petit garçon est né. Faut dire que tous les bébés sont beaux, hein. Même moi, quand j'ai deviné, ma mère m'a dit que j'étais d'une beauté exceptionnelle. Bon. Je suis arrivé assez vite, je suis arrivé à 7 mois, hein. Donc, bon. Elle a changé d'avis après quelques semaines, déjà. Enfin, bref. On peut imaginer la joie. La joie qui a rempli ce foyer, un petit garçon est arrivé. Et pour cette femme et pour son mari, cet enfant est un véritable miracle. Donc ce petit garçon est devenu assez costaud, et un jour, il est allé avec son père au moisson. Hein? Mais malheureusement, il a oublié de mettre son chapeau. Et il a attrapé une insolation. Hein? Il rentre à la maison très malade et le pire est arrivé. Il est mort sur les genoux de sa maman. Hein? Terrible. Quelle histoire. Affreux. Le gamin est mort. Vous savez, quand un homme perd sa femme, il devient veuf. Hein? Quand une femme perd son mari, elle devient veuve. Quand un enfant perd ses parents, il devient orphelin. Mais il n'y a pas un mot en français, ni en anglais, ni en italien, pour les parents qui perdent un enfant. C'est terrible de perdre un enfant, hein? Mais là encore, on voit la force de caractère de cette femme. Et je trouve qu'elle est incroyable. Malgré cette épreuve épouvantable, elle dit, dans le verset 23, elle dit, tout va bien. Elle vient de perdre son fils, puis elle dit, tout va bien. Elle ne perd ni la tête, ni les pédales. Elle garde son sang-froid, car elle a une confiance absolue dans le Seigneur. Hein? Elle sait que le prophète, que Élisée peut faire quelque chose à la gloire de Dieu dans cette situation désespérée. Alors, elle saute sur son âne. Donc, c'était plutôt, si je ne me trompe pas, une ânesse. Hein? Alors là, il y a ceux qui ont les 2 chevaux, mais elle avait que une ânesse. Hein? Et elle est partie directement pour trouver le prophète Élisée. Hein? Alors, quel voyage, 30 kilomètres sur le dos d'un âne. Il faut le faire. Hein? Et quand elle est arrivée, le serviteur d'Élisée a commencé à poser un tas de questions. Hein? Il a dit, que se passe-t-il? Puis là encore, elle dit avec assurance, tout va bien. Tout va bien. Bien sûr, elle sait qu'elle se trouve dans une situation sans issue, humainement parlant. Mais elle croit que le prophète Élisée peut faire quelque chose pour elle. Et elle ne veut pas se confier à quelqu'un d'autre, à ses serviteurs. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai fait quand on passe par un chemin difficile? Quand cela ne va plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Alors, on parle à droite, on parle à gauche, on téléphone, on parle aux amis. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est de parler avec le Seigneur. Amen. Combien d'entre vous avez un téléphone mobile? Alors, Joseph, tu as un téléphone mobile? Oui, ok. Alors, moi j'ai un téléphone mobile depuis 60 ans. Hein? Ça vous étonne? J'ai un téléphone rouge ici dans mon cœur. Hein? Et quand j'ai un pépin, quand j'ai un petit bobo, je prends mon téléphone rouge et j'ai le contact instantané avec le ciel. Hein? C'est bien. Et je vais vider mon sac, hein? Je vais parler avec le sac. Et maintenant, c'est un Écossais qui veut parler. Et la chose fantastique, je peux parler 24 heures sur 24 et c'est gratuit. Hein? Amen. Alors là, il faut utiliser votre téléphone rouge. Il faut parler avec le Seigneur, avec celui qui vous aime, avec celui qui peut faire un miracle dans votre situation, dans votre vie. Hein? On doit se confier à Jésus, hein, car Jésus est toujours concerné par notre situation. Et il est le seul qui puisse vraiment nous aider dans notre détresse, dans notre peur. Quand Lazare est tombé malade, hein, quand il est tombé si gravement malade, les deux sœurs, Marie et Marthe, et savait que Jésus était le seul qui pouvait faire quelque chose. Et alors, elles ont envoyé un message à Jésus. Et le message était très simple, très direct. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et on connaît la suite, comment Jésus est venu et Lazare donc est sorti du tombeau. Quand cette femme se jette aux pieds d'Élisée, Gehazi, son serviteur, essaye de la repousser. Mais le prophète a un cœur plein de compassion. Et il est touché par la souffrance de cette maman. Et il dit à son serviteur, laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Et c'est vrai, les prières d'une mère sont vraiment précieuses. Hein? Les prières d'une maman sont précieuses. Quel privilège extraordinaire d'avoir une mère qui prie pour ses enfants. Aujourd'hui, si je suis là, devant vous, c'est grâce aux prières de ma mère. Hein? Alors là, maintenant, bien sûr, elle me manque, ma petite maman. Hein? C'est vrai. Quand nous crions vers le Seigneur, il ne reste pas insensible, il ne reste pas indifférent à notre douleur, à notre tristesse. Et si nous crions vers lui à cause d'un membre de la famille qui est malade ou un membre de la famille qui se trouve en difficulté, Jésus est toujours touché par notre épreuve. Et il veut toujours venir à notre secours, car il nous aime d'un amour insondable. Un jour, on se souvient que Jésus, il a vu une pauvre petite femme, une pauvre petite dame qui amenait son fils et le corps de son fils au cimetière. En plus, cette petite dame, elle a déjà perdu son mari, elle était veuve. Et il est écrit dans Luc chapitre 7 que Jésus, le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas, hein, ne pleure pas. Et verset 14 de Luc chapitre 7, Jésus s'approche et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il est écrit, le mort s'assit et s'est mis à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez une idée de ce que... Sûrement, il a dit, oh, j'ai eu un rêve terrible. J'ai rêvé que j'étais mort. Hein? Alors là, donc, le Seigneur la libérer, le Seigneur l'a guéri, et donc il a pu continuer sur le chemin de la vie avec sa maman. Jésus, il est écrit, Jésus le rendit à sa mère. Et donc le prophète Élisée s'est rendu dans la maison de la Tsunamite. Il a intercédé avec puissance, intercédé avec compassion pour son fils. Il a crié vers Dieu et l'enfant est passé de la mort à la vie. Ensuite, Élisée l'a rendu à sa mère. Et cela a été aussi notre expérience. À cause de nos péchés, nous étions morts. Nous étions perdus, sans espérance. Mais Jésus est venu. Il a donné sa vie sur la croix du calvaire afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Hein? Il dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, il dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Et avec un cœur débordant de reconnaissance, nous disons « Merci Seigneur pour cette vie nouvelle que tu m'as donnée, pour cette espérance que tu as mis dans mon cœur et pour cette assurance que mes péchés sont pardonnés. » Amen. Donc, cette chère maman a eu la joie de retrouver son fils. Et je suis certain qu'encore une fois, avec un grand sourire, elle disait, tout va bien, tout va bien. En effet, c'est vrai, elle connaissait la paix de Dieu d'une manière remarquable. Mais si on continue à lire dans le deuxième livre des Rois, on peut voir que cette Tsunamite, cette brave femme, cette brave maman, a dû passer par d'autres épreuves. En effet, une famine a éclaté dans le pays. Et le prophète Élisée lui a donné quelques bons conseils. Il a dit, « Mets-toi en route, va à l'étranger avec ta famille, allez-vous installer où vous pouvez. » Que vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer une famine sur ce pays. Hein? Alors elle est partie, mais après 7 ans, elle est retournée au pays. Mais c'était un véritable cauchemar. Elle n'avait plus rien, plus de maison, plus de terre. Alors quelle situation pour cette pauvre maman? Pourtant, elle avait donné sans compter. Elle a pourvu aux besoins de l'homme de Dieu. Et maintenant, elle se trouve sans rien. Hein? Mais dans son épreuve extrême, elle a pu connaître l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire, exceptionnelle. Dans sa grâce, le Seigneur a agi d'une manière formidable pour régler sa situation. Il est écrit qu'un jour, elle est allée chez le roi, hein, pour qu'on lui rende sa maison de ses terres. Elle n'avait pas foi aux yeux, cette maman. Elle est allée chez le roi, pour le faire, hein. Et en ce moment où elle arrive devant le roi, il y avait justement une discussion entre le roi et le serviteur d'Élisée, hein? Et chose incroyable, ils étaient en train de parler d'elle et de son fils. Je trouve vraiment ce remarquable. Frères et sœurs, il ne faut jamais oublier que l'Éternel dirige chaque moindre détail de notre vie. Dans nos joies et dans nos peines, il dirige toutes choses, comme il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aime Dieu. Des bonnes choses et des mauvaises choses. Toutes les choses concourent à notre bien. Donc, il est écrit dans le deuxième livre des Rois, que le roi, chapitre 8, verset 6, que le roi dit à son serviteur, fait restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus de Sichon, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Hein? Donc elle a rendu service au prophète Élisée. Et maintenant, c'est le roi, c'est lui-même qui défend ses intérêts. Et enfin, elle est largement récompensée pour tout ce qu'elle a fait. Et encore une fois, elle peut dire, tout va bien, tout va bien. Ce matin, nous sommes dans la joie de réaliser que le Seigneur défend nos intérêts. Hein? Allez, on peut dire gloire à Dieu quand il s'occupe de chacun et chacune. Nous sommes ses élus. Amen. Nous sommes ses élus, nous sommes ses rachetés. Nous sommes le peuple de Dieu. Et un jour, nous aurons la joie d'entrer en possession de notre héritage. Alors soyons décidés, soyons déterminés d'accomplir notre tâche ici-bas avec joie. Soyons zélés en tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on doit faire pour notre maître. Car un jour, nous allons recevoir notre récompense. Bon, je vais terminer. Amen. Qui a dit amen? Mais avant de laisser la place à Jocelyn, j'aimerais lire trois versets qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu chapitre 25. Et c'est Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit. Dans le verset 34, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Puis le verset 40, je vous le dis en vérité, tout l'effort que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Seigneur, nous sommes dans la joie de réaliser que tu nous aimes. Et Seigneur, tu es au courant de chaque problème qui est devant nous. Seigneur, tu connais chaque souffrance, chaque maladie. Et Seigneur, tu es toujours là pour nous aider. Tu défends nos intérêts et tu prends soin de chacun, chacune. Seigneur, je te demande de bénir mes frères, mes sœurs ici présents. Tu connais ceux qui passent par un chemin difficile, un chemin pénible. Et merci Seigneur, parce que dans ton grand amour, tu es ému de compassion et tu désires nous aider. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons marcher d'une manière digne de ton nom. Aide-nous, Seigneur, pendant cette semaine d'avoir le courage de témoigner, de parler de ta grandeur, de ton amour, et de ta grâce, de ta bonté. Seigneur, bénis chacun, chacune. Seigneur, nous te demandons, comme nous venons de chanter, de souffler par ton esprit et dans cette église, dans cette ville de Neuchâtel, et Seigneur, que beaucoup d'âmes puissent crier vers toi avant ton retour. Amen. Amen. Alors, c'est l'orgue.